Session sur la béatitude par le Père Marie-Dominique Philippe à Rimont, le 20 avril 1996, quatrième conférence.
Que cette journée soit encore une journée de travail, de silence. C'est vrai que si on veut travailler, réfléchir et prier, il faut le plus grand silence possible, tout en moment des rencontres. Mais on perd souvent beaucoup de temps entre les deux. Que le travail théologique est un travail de sagesse, de contemplation. Et il faut essayer aujourd'hui, après avoir contemplé le grand mystère d'amour du Père pour nous, m'appeler à être enfant de Dieu, fils bien-aimé, dans la lumière de celui qui est la lumière véritable. Nous sommes appelés à vivre sa vie de Père, de Fils et d'Esprit Saint, comme le Fils vit du Père tout en étant Fils. Pour le Fils tout en étant Père. C'est ça qui est merveilleux. Et le Fils et le Père vivent de l'Esprit Saint tout en étant Père et Fils dans l'unité. On voit bien cela. Vous voyez, dans l'amour d'amitié, on sent bien cela. On vit pour l'ami et on vit ce que l'ami vit, tout en sachant très bien qu'il faut être soi-même pleinement pour que l'ami puisse trouver en nous ce qu'il cherche dans l'ami. C'est ce que l'évangile de Jean exprime magnifiquement quand il dit « Demeurez en moi et vous en moi ». Il y a ce mouvement constant. Et c'est cela qui se réalisera parfaitement dans la vision béatifique. Et nous serons dans la béatitude de Dieu. Et ce sera bien la béatitude de Dieu. Vécu triplement, une triple béatitude. Pour Aristote, la béatitude de Dieu, c'était la contemplation de la contemplation. Noésis, noéséos. Pour le chrétien, la contemplation de Dieu, c'est la contemplation du Père. Pour le Fils, du Fils pour le Père. Du Père et du Fils pour l'Esprit Saint. Il y a quelque chose d'étonnant. Comment, dans la fécondité même de Dieu, on est en présence d'une triple béatitude, puisque la béatitude est toujours personnelle, d'une triple béatitude qui, j'allais dire, permet à chaque personne d'être ce qu'elle est dans son originalité la plus forte qui soit. Aucun père n'est aussi père que le Père, que notre Père du ciel. Aucun père n'est aussi père que lui. Aucun fils n'est aussi fils que le Fils du Père. Et pourtant, ils sont un. C'est le mystère. Mais c'est merveilleux de savoir que ce mystère est notre mystère. Nous n'avons pas d'autre mystère que celui-là. C'est ce mystère vécu en nous. Mais c'est le mystère de Dieu. Alors, à la différence de certains qui disent que grâce à nous, Dieu est parfait, nous disons l'inverse. Grâce à Dieu, nous sommes parfaits. Parce que nous maintenons sa pauvreté radicale de la créature, qui n'ajoute rien à Dieu. Et que Dieu donne tout. Parce que précisément, Dieu l'a créé par pur amour, pour lui donner tout ce qu'il pouvait lui donner. Il faut souvent revenir à cette béatitude triple du Père, du Fils et de l'Esprit, le mystère de la très sainte Trinité. Comme dit saint Augustin, on sait qu'on ne peut que balbutier. On dit comme le prophète, et le plus grand théologien sait très bien qu'il ne peut pas dire autre chose que cela sur le mystère de la très sainte Trinité. Et cependant, il y revient tout le temps. Il doit tout le temps y revenir, parce que la moindre lumière sur le mystère de la très sainte Trinité éclaire toute notre vie. Notre vie est illuminée par la très sainte Trinité, par le Père, par le Fils, par l'Esprit Saint. Il y a en nous la vie du Père, la vie de l'Esprit et la vie du Fils. Ce mystère est unique et nous en vivrons éternellement. Et c'est vraiment la béatitude parfaite à laquelle nous sommes tous conviés. Et cette béatitude nous est donnée à travers la croix. Donc, ici-bas, à travers la lutte, à son paroxysme, la croix. Il n'y a pas eu une lutte aussi forte, aussi capitale que la lutte que Jésus a vécue à la croix. C'est la lutte suprême. L'amour face à la haine. La vérité face au mensonge. C'est dans la lutte que nous vivons ici-bas cette béatitude. Et que nous marchons vers cette béatitude. Et nous devons tous accepter cette lutte. Elle prend des modalités très différentes pour chacun. C'est la taille du Père dans la lutte. On sait que le démon ne peut pas supporter que les petits Benjamins, les petits derniers, passent devant lui. L'orgueilleux n'accepte jamais cela. Et l'orgueil du démon est un orgueil capital. À cause de son intelligence très intuitive, son intelligence angélique, le démon n'a pas perdu son intelligence angélique, mais il en a perdu la finalité. Il ne cherche plus la vérité. Il ne cherche que la sincérité de l'orgueil. C'est-à-dire prétendre qu'il est tout le temps victorieux. Et c'est ça qu'il cherche. La béatitude du chrétien sur la terre. C'est une béatitude imparfaite, comme dit Thomas d'Aquin. C'est la béatitude de celui qui marche vers la perfection, vers la plénitude. Et on accepte que cette béatitude est imparfaite. Thomas d'Aquin dit cela. Au plan théologique. Et c'est très important de comprendre que dès cette terre, nous sommes faits pour la béatitude. C'est reposant, vous savez. C'est ça qui nous donne la paix. Et le démon ne veut pas ça. Le démon, c'est le pantareil. D'Héraclite, c'est le pan panne pareille de Hegel, tout coule, tout change. Il n'y a pas de paix sur la terre. Faut pas chercher la paix sur la terre. C'est la lutte. Mais une lutte haineuse. Et c'est vrai, quand la lutte est une lutte haineuse, il n'y a pas de paix. Il n'y a que la tension. Et une tension constante. Tandis que quand la lutte se fait dans l'amour, en vue de la vérité, en vue de la recherche de la vérité, on aime les hommes. Tu as tant aimé le monde, les hommes, qu'il a donné son fils. Au moment suprême de la lutte, il a donné son fils. Père, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Plus la lutte est grande, plus il faut que ce pardon à l'égard des hommes soit grand. C'est la condition sine qua non de la béatitude imparfaite de la terre. S'il n'y a pas le pardon, il n'y aura pas de béatitude sur la terre. Nous nous laissons entraîner dans une lutte haineuse et nous prendrons les armes de ceux qui sont les disciples, les suppôts du démon. C'est très important de comprendre que la condition nécessaire pour découvrir sur la terre la béatitude, c'est le pardon. Père, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Le Père donne son Fils au milieu du plus grand combat. Humainement parlant, c'est de la folie. C'est de la folie. Quand on est dans le combat, on prend toutes ses forces et on est entièrement dirigé pour détruire l'ennemi. Et on ne fait pas la distinction, parce qu'on est dans la passion, entre le mal et la personne. La lumière de la béatitude du ciel, de la béatitude de Dieu et du Père, c'est de faire cette distinction. C'est de comprendre que nos ennemis sur la terre sont des hommes aimés de Dieu et que nous devons aimer. Mais nous ne devons pas être complices de leur méchanceté, de leur orgueil. Nous devons les aimer, aimer leur cœur et haïr leurs mensonges. Pas de complicité dans les ténèbres et dans le mensonge. C'est donc une béatitude, voyez, qui n'est pas commode du tout, parce que elle est tout intérieure, mon royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est ici sur la terre, et le royaume de Dieu, c'est la béatitude. Mais ce royaume, il est intérieur, il nous saisit au plus intime de nous-mêmes, il est vécu au niveau de nos vertus théologales. Au niveau de nos vertus théologales, nous sommes bien heureux dès cette terre. Mais le fort externe, ce qui se voit, notre sensibilité, notre imagination, elle est tout le temps dans la lutte. Il n'y a pas de repos. Au niveau passionnel, affectif, au niveau sensible, au niveau imaginatif. Parce que le démon est le prince de ce monde. C'est dit, il est le prince de ce monde. Parce qu'il est un ange. Alors, le Père lui a laissé ce titre d'être un ange. Par nature, et par rapport à notre monde physique, notre notre monde sensible, il a un pouvoir naturel. C'est extraordinaire de voir le respect de Dieu à l'égard de sa créature. Parce que Dieu pourrait l'écrabouiller, l'anéantir. Non. Et Dieu veut que nous arrivions à penser comme lui. Alors, où se trouve sur la terre notre béatitude, même s'il est imparfaite? Mais qu'est une béatitude? Saint Thomas nous montre comment le théologien a fait ce discernement. Je ne vais pas suivre Saint Thomas avec vous ce matin, parce que ce serait beaucoup trop long, mais je vous indique la piste pour ceux qui voudront poursuivre un peu ces quelques jours de réflexion. Vous avez donc au début de cette prima secundae, et vous voyez ce que c'est que la prima secundae pour Saint Thomas, c'est le retour de l'homme vers Dieu. Donc c'est l'homme vers la béatitude. C'est bien ce que nous cherchons. L'homme vers la béatitude. Nous sommes marchands vers la béatitude. Tous. Plus ou moins, mais tous. On est mobilisés pour aller vers la béatitude, vers la vision béatifique. Ça c'est, vous voyez, et quand on est trop en bataille, on doit arrêter un instant. Tous nous cherchons la vision béatifique. Entre chrétiens. Il faudrait ça de temps en temps, vous voyez. Quand la lutte est trop forte, arrêtons-nous. Nous cherchons la vision béatifique. Ça ferait une douche, non pas d'eau, mais de feu, pour s'unir. Puisqu'on cherche tous la vision béatifique. Progressistes, traditionnalistes, toutes les divisions qu'on donne, hein, on cherche la vision béatifique parce qu'on est enfant de Dieu. Alors découvrez cette recherche chez vos pires ennemis. Vous la regarderez autrement. Saint Thomas commence. Question 1. La fin dernière de l'homme, considérée en général. La question 2. Et c'est ça que je trouve remarquable. J'ai mis très longtemps avant de le comprendre. Question 2. En quoi consiste la béatitude de l'homme? Donc, voyez bien, tout est là. La fin dernière. Quelle différence y a-t-il entre la recherche de la fin et la béatitude? Pour le théologien, oui, on serait tenté de dire que cette recherche de la fin dernière, ah, ça c'est philosophique, là c'est théologique. C'est vrai, Jésus ne parle pas de fin dernière, il parle de la béatitude. Bienheureux les pauvres. Drôle de béatitude. Bienheureux ceux qui pleurent, encore plus curieux. Bienheureux les doux, oh oui, on comprend ça. Parce qu'on les laisse tranquilles. Là, la béatitude, c'est les béatitudes, c'est le discours des... Jésus ne fait pas le discours des fins dernières. Ça, c'est le théologien. C'est le philosophe. Et Thomas d'Aquin commence, question 1, de la prima secundae, donc du retour vers Dieu. Question 2, la béatitude. Moi, j'aurais mis l'ordre inverse. On aurait tous fait ça, j'en suis sûr. Non. Alors ça, c'est extraordinaire, vous voyez. C'est là où on voit l'intelligence de Thomas d'Aquin. Tout ce que l'intelligence humaine peut dire, elle doit le dire. Ce serait de la paresse que de regarder tout de suite la foi. Paul VI, je vous l'ai déjà dit, que j'ai écouté une fois dans une audience, une seule audience que j'ai eue, avec des théologiens, un petit groupe, on était une trentaine. Le plus grand danger pour l'Église, c'est le fidéisme, c'est-à-dire la paresse. Si la foi le dit, j'ai pas besoin de chercher par l'intelligence. Et Paul dit, Paul VI dit, c'est le plus grand danger. Parce qu'on endort son intelligence, alors que la foi est faite, au contraire, pour qu'on soit des serviteurs. On met notre intelligence au service de Dieu. Je ne peux mettre mon intelligence qu'au service de Dieu. Alors on comprend pourquoi Thomas d'Aquin commence par les fins. Y a-t-il une fin ultime pour l'homme? Et la béatitude, qu'est-ce que c'est? Ah, alors là, ce serait très intéressant de bien voir la différence entre la précision des fins et la béatitude. La béatitude regarde la personne. C'est une personne qui est bien heureuse. Elle est bien heureuse, c'est un état, on est bien heureux. La fin regarde la nature humaine. Le théologien regarde toujours la personne. Mais ici, cette personne implique une nature. Le philosophe, lui, il va de la nature à la personne. C'est sûr. C'est ça qu'il fait. Le théologien, lui, se sert de la philosophie, de ce que l'intelligence humaine peut dire. C'est pour ça que cette question 1 est très philosophique. C'est Aristote. C'est l'éthique d'Aristote. C'est curieux. Et ça s'achève dans la béatitude, dans l'évangile. Parce que pour Thomas d'Aquin, il ne peut pas y avoir de contradiction entre la sagesse philosophique et la sagesse théologique. Et la sagesse mystique, il ne peut pas y avoir de contradiction. Il y a des niveaux différents. Alors, ceci dit, c'est très important. Que signifie pour nous la béatitude imparfaite? La béatitude imparfaite, c'est là où nous pouvons découvrir, dès cette terre, une vraie finalité humaine. Dès que je découvre une finalité humaine, acquérir cette finalité, c'est me rendre bien heureux. Alors je sais que la fin ultime, c'est la vision béatifique. Nous avons vu ça. Et là, j'atteins la béatitude parfaite. Je suis fait pour cela. On pourrait mettre ça en rouge pour bien comprendre, puisque nous sommes des enfants. Ah, c'est l'au-delà, ça. Mais cet au-delà, parce qu'il est divin, est déjà présent en moi. C'est ça qui est extraordinaire. La foi est la substance des choses que j'espère. Donc c'est déjà présent. Ce noyau, cette béatitude parfaite, elle est en moi, au plus intime de mon âme, de chrétien, par la grâce. Et dans la grâce, par la grâce, je suis un être bien heureux. C'est quand même quelque chose. Quand vous faites baptiser un petit enfant, vous le rendez bien heureux. Ce qu'il faut dire aux parents. Vous ne voulez pas le baptême, vous ne voulez pas qu'il soit bien heureux. Vous le rendez bien heureux. Vous le rendrez lié à la béatitude éternelle. réel, c'est pas intentionnel, c'est réel, c'est la grâce divine. Et par la grâce divine, nous sommes liés à cette béatitude. Et donc cette béatitude est présente, elle est présente, elle n'est pas vécue. Elle n'est pas vécue, elle est présente. Vous voyez, toute la différence entre une philosophie qui regarde le réel et une philosophie qui regarde le vécu. Pour une philosophie qui regarde le vécu, la vision béatifique est absente. Pour une philosophie qui regarde le réel, la vision béatifique est présente. Alors là, vous comprenez comment, si on fait une théologie avec une philosophie du vécu, on ne parle plus de la vision béatifique. Parce que vous ne vivez pas la vision béatifique. Mais vous savez, dans la foi, que vous êtes fait pour cela. Et donc elle est déjà présente. Ontologiquement, elle est présente comme une semence. La grâce est une semence de gloire. C'est dit dans l'Écriture. Semen gloriae, semence de gloire. Si la grâce est une semence de gloire, ça veut dire que la béatitude, la vision béatifique est déjà là, comme une semence de gloire. Donc il faut mettre semen gloriae, la grâce. Il y a une présence de la vision béatifique. Évidemment, ce qui m'intéresse surtout aujourd'hui, c'est le vécu. Ah, le vécu, oui. Le vécu est très intéressant quand je sais où je vais. Quand je regarde le vécu pour le vécu, ça va plus. Alors, le vécu, c'est cette marche vers la vision béatifique. Alors, je ne suis pas encore, c'est le vécu. Alors dans le vécu, je sais qu'il y a pour moi, déjà dès maintenant, une certaine finalité vécue. Et cette finalité vécue me donne une certaine béatitude, un certain repos. Vous savez bien que le grand mal d'aujourd'hui, c'est les stress. Hein, je veux dire ça. Quand on a dit ça, on a tout dit. Hein. Éviter les stress. Je veux dire, je ne veux pas les éviter. Parce que on est sur un champ de bataille. Première ligne. L'apôtre, toujours première ligne. À moins que vous soyez un apôtre infirmier pour être dans la dernière ligne. Mais si vous êtes un apôtre, vous êtes première ligne. Donc les stress. Les balles passent droit devant au-dessus, bord derrière. Le stress est bon, on est un homme stressé. C'est pour ça que Jésus prend comme exemple la vigne. Il n'y a pas un arbre plus tordu que la vigne. Taillé, 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 taillé. Si Freud avait compris ça, il aurait compris que les complexes, ça peut servir à quelque chose. Parce que si vous supprimez les complexes de la vigne, qu'est-ce que vous avez? Du raisin vert, qui ne mûrit jamais. Du raisin sauvage. Vous avez pris déjà du raisin sauvage. C'est assez amer. Hein. C'est une drôle de piquette. Avec ça. Et alors, on est en train de préparer des piquettes, vous voyez, pour le royaume de Dieu. La vigne, c'est l'arbre le plus noué. Le plus noué. Il n'y a que ça. Vous voyez, regardez un vieux pied de vigne. C'est merveilleux, un vieux pied de vigne. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand vous faites brûler dans une cheminée un vieux pied de vigne, ça éclate tout le temps, à chaque instant. C'est quelque chose de très étonnant. Si Jésus a pris la vigne, c'est pour une raison, c'est pas du tout le hasard. Il n'aurait pas pris un arbre qui pousse tout droit, sans nœud. Alors, le glorifié, qui épanouit dans les trois vertus théologales. Mon vécu, c'est les trois vertus théologales tendues vers la vision béatifique. C'est mon vécu, ça. Dans ce vécu, il y a des moments de repos. Quels sont ces moments de repos? Et quand je dis des moments de repos, ce moment de repos est toujours possible, présent, puisqu'il est au niveau divin, de mon vécu divin. Dans mon vécu divin, il y a des moments de repos. Ce sont les diverses fins. Quelles sont les fins? Ah, là je fais appel à ma philosophie. Quelles sont les différentes fins de l'homme? Au plan de la philosophie, à la théologie, quelles sont ces différentes fins? Il y a la contemplation. Voilà mon vécu. Mon vécu le plus merveilleux, c'est la contemplation. La contemplation, c'est un repos. Il n'y a plus de stress. Définissez la contemplation, le lieu où il n'y a plus de stress. Alors c'est merveilleux, c'est la détente divine. Vous ne pouvez vous détendre.
D'amitié humaine.
troisième, est-ce que le travail est-il une béatitude imparfaite? Oui, je suis de mauvaise humeur aujourd'hui. Là, je me réfugie dans mon travail. Je ne veux voir personne. J'aime bien travailler la métaphysique. Ça me fait du bien. C'est mon violon d'âge. Vous savez, quand Jean XXIII a été nommé pape, on a été voir ses neveux dans le midi. On lui a demandé, où trouve-t-il le repos? Quel est son violon d'âge? Ça a été dit à la TSF. C'était une perle dont j'ai retenu. Quel est son violon d'âge? À Jean XXIII. Alors les neveux cherchaient. Ces bons Italiens, maçons. Oh, alors je dis, oh, je crois bien que c'est l'Église. Très merveilleux. Strauss dans l'Église, c'est son violon d'âge. C'est peut-être le troisième. Le travail n'est pas une béatitude, mais pas suffit. C'est pour ça qu'il faut acquérir vite des mœurs de travailleurs. Intellectuel ou menuisier, quoi. Ébéniste. Si on a des mœurs de travailleurs, c'est un refuge. C'est pas une béatitude, c'est un refuge. On a besoin de temps en temps d'avoir un refuge. Et ça apaise. Il n'y a rien de plus apaisant quand vous êtes vraiment tracassé par une quantité de choses. Parce que le prochain, c'est un repos. Ça devrait être une béatitude. Mais pas toujours. Pas toujours. L'oraison. Oui. D'accord. Mais quand on est immergé par l'imagination. Pas comme du tout, j'entre dans la chapelle, à ce moment-là, l'imagination arrive. J'arrive pas. J'ai beau répéter indéfiniment, Seigneur, je veux vous aimer, je veux vous aimer. Répétez-le 100 fois, peut-être que ça va émerger. Et si ça n'émerge pas, alors refuge. C'est pas une béatitude le travail, c'est pas une béatitude. L'idéologie marxiste veut baptiser le travail pour en faire une béatitude, et ça rate. Ça fait qu'au bout d'un certain temps, on n'a plus du tout l'amour du travail. Parce que je crois que c'est ça, le pire du marxisme. Ça détruit l'amour du travail. Et en détruisant l'amour du travail, ça détruit le repos, le refuge de l'homme. L'homme n'a plus de refuge. Dans le monde d'aujourd'hui. C'est peut-être ça la maladie la plus grande. Il n'y a plus de refuge. Alors, parce qu'il n'y a plus de refuge, on est ballotté. On ne sait plus quoi. Alors, il y a des asiles psychiatriques. C'est un refuge fabriqué par les hommes qui n'est pas un vrai refuge. C'est pas là où vous aurez la béatitude. Alors, vous voyez, je mettrai un troisième rond. Un refuge, le travail. Mais deux béatitudes imparfaites. Alors, ce sont ces deux béatitudes imparfaites que nous devons regarder au point de vue chrétien. Et c'est vrai. La contemplation dans la foi, l'espérance et l'amour, c'est un moment où je rejoins le Christ, où je suis avec lui, où je demeure en lui, demeurer. Je suis sous sa tente, je demeure avec lui. Et quand je peux demeurer avec Jésus, je vis de son rayonnement, de sa béatitude. Le Christ est rayonnant de béatitude. Il est rayonnant d'amour et de gloire. Père, glorifie ton Fils. Et cette prière de Jésus, elle est réalisée. Et dans l'oraison, c'est pour ça que Sainte hérésie ne quittait jamais l'humanité sainte du Christ dans l'oraison. L'oraison me lie au cœur blessé de Jésus. Le lieu de l'oraison, c'est le cœur blessé de Jésus. C'est là où je fais oraison. Et je participe à ce moment-là à sa béatitude. C'est imparfait. Parce que c'est vrai, je ne le vois pas. Mais il est là. Plus présent à moi-même que je ne suis présent à moi-même au point de vue de ma vie divine. Et donc, il y a une unité de vie. Il est la tête, la lumière. Quand on aime beaucoup quelqu'un, il suffit que lui voie et on accepte de ne pas voir. Oui. Parce que dans l'amitié, il y a une identité de vouloir. Il y a une unité de vie. Si lui voit, je peux m'abandonner à lui. Il est la tête. Il est l'époux. Il est la pierre angulaire. C'est très curieux, vous voyez, ces trois aspects pour lesquels mon oraison me donne cette béatitude imparfaite. Et une béatitude, un repos dans sa lumière, dans son amour, dans sa toute-puissance. Je me repose sur lui. Et je sais qu'à partir de là, il pourrait y avoir cette fécondité merveilleuse de la charité fraternelle. Il ne faut jamais oublier ça. L'oraison, elle implique ce triple contact dans la foi, l'espérance et la charité. Dans la foi, il est la tête. Dans la charité, c'est le cœur blessé d'amour du Christ. Et dans l'espérance, je m'appuie sur lui. C'est la toute-puissance qui m'est donnée. Et je vis de ce contact très saint. Chaque fois que, de fait, l'exercice des vertus théologales est rude, difficile, je refais des actes d'adoration. L'adoration est toujours présente dans l'oraison. Je ne peux pas quitter l'adoration, puisque par l'adoration, dans la vérité, adorer Dieu. C'est le point de départ. Et je ne dis pas que c'est le terme c'est l'amour. Mais c'est le terme de l'aridité de la foi, de l'espérance et de l'amour. Oui, je dirais que l'adoration, c'est le refuge de ma contemplation. C'est vrai, c'est le refuge. Je peux toujours adorer. Je peux toujours faire des actes d'adoration. Tandis que faire des actes de foi dans une aridité totale, c'est rude. Faire des actes d'espérance dans une pauvreté très froide, c'est rude. Faire des actes d'amour quand tout échappe, c'est rude. À ce moment-là, on revient à l'adoration, c'est fondamental. Et ça me redonne vie. C'est pour ça qu'il ne faut jamais oublier ces trois aspects de l'oraison et l'aspect fondamental de l'oraison. Le fondement de l'oraison. Vous voyez, on n'adore pas assez. Je me souviens des quand je suis arrivé à Fribourg, donc en 45, on m'avait dit, c'est des amis, allez à Genève voir un pasteur anglican qui est merveilleux, qui est tellement proche du catholicisme, allez le voir, ça lui fera beaucoup de plaisir. quand je me suis trouvé devant un pasteur anglican merveilleux. Il m'a dit, ce qui est terrible dans l'église anglicane, c'est qu'on n'adore plus. Alors j'ai repris, ce qui est terrible dans l'église catholique, c'est qu'on n'adore plus. Alors il m'a regardé. Le bavardage. Avant, c'était le silence. On adorait. On se mettait à genoux. On adorait. Être debout, c'est l'attitude de la contemplation. Vous avez le droit, si vous contemplez, d'être debout. Mais si vous ne contemplez pas, vous n'avez pas le droit d'être debout. Vous devez être à genoux. Vous adorez. C'est sûr, le corps adore. Debout, ni assis. Vous voyez, quand vous voyez les gens entrer dans l'église, tout de suite, ils s'assoient. Elle m'a dit, bon sommeil. C'est pas ça. On entre dans l'église pour adorer Dieu. C'est le lieu de l'adoration. Et cette adoration me conduit à la contemplation. Heureusement, vous voyez, qu'on a retrouvé, que les jeunes retrouvent ça. Ils aiment de se mettre à genoux et d'avoir une attitude de soumission à l'égard de Dieu. Parce que l'adoration fait que le corps est lié à l'âme pour adorer. Dans la contemplation, le corps est beaucoup moins lié. C'est pour ça que je peux être debout. Une attitude de noblesse. On regarde à vous, c'est un peu raide. Mais, on est à vous, on regarde. Jean, au pied de la croix, était debout. Dès qu'on n'adore plus, dès qu'on ne contemple plus, on adore. Pas oublier que notre corps est lié à notre béatitude, on l'a vu hier. Et donc il faut que notre corps adore. Si notre corps n'adore pas, il perd sa souplesse. Il devient un onagre méchant. Il devient une bête sauvage qui ne veut vivre que de ses instincts. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Le corps réclame ses instincts. Et on dit que c'est humain, mais non, c'est bestial. Tout simplement. Vous voyez, la correction. Redécouvrir dans notre monde d'aujourd'hui les béatitudes imparfaites du chrétien. Les lieux de repos, de détente, l'au-delà des stress. Pour vraiment être avec Jésus. C'est tellement important. Et ceci, j'allais dire, c'est vital. Un chrétien ne peut être un vrai chrétien que lorsqu'il donne du temps à l'adoration et à la contemplation. Matin et soir. Il ne donnerait que 5 minutes matin et soir, c'est déjà quelque chose. Et ça, tout le monde peut le faire. Qui donne un quart d'heure, c'est déjà mieux. Qui donne une demi-heure, ça commence à devenir quelque chose qui maintient une béatitude. Les chrétiens devraient être des gens heureux. Non pas heureux nécessairement au point de vue sensible, au point de vue affectivité passionnelle, non. Mais heureux au plus intime d'eux-mêmes, parce qu'ils sont liés à la béatitude du Christ. Voyez, cette béatitude-là. Quel est le modèle pour nous, Marie? Marie a vécu de cette béatitude, le Magnificat. Le Magnificat, c'est la prière de cette béatitude. Et c'est ça qui commence avec l'Église chrétienne. Le Magnificat n'est pas chanté premièrement à la croix. Le Magnificat est chanté dans un climat de joie familial. Et le Magnificat exprime bien la béatitude de Marie. Mon âme exalte. Mon âme magnifique, Seigneur. Mon esprit exalte, Seigneur. Vous voyez, c'est le corps et l'âme. Et le Magnificat, c'est vraiment la prière typiquement chrétienne, jaillissant du cœur de la mère. Et c'est une prière qui unit la liturgie et la contemplation, qui unit la contemplation et l'adoration. C'est pour ça que le Magnificat est quelque chose de si merveilleux. Parce que c'est Marie qui nous apprend à être bien heureux dans la contemplation, dans l'oraison, dans l'adoration. C'est Marie qui nous apprend cela. Elle est la mère de notre oraison. Elle est la mère de notre vie contemplative. Elle est la mère de notre adoration. Elle nous fait comprendre comment nous devons vivre de plus en plus cette intimité avec le cœur de Jésus. Et que c'est cela qui, pour nous, est le repos. Un repos passager, c'est sûr, mais c'est un vrai repos. Voulez-vous avoir soif de la vision béatifique s'il n'y a pas d'oraison dans votre vie, s'il n'y a pas la soif de la contemplation? Mais c'est vrai que c'est une béatitude imparfaite, je suis tout à fait d'accord, c'est pas une béatitude parfaite. Dieu peut permettre au début, quand on commence à redécouvrir la présence de Jésus, d'avoir, comme on dit, des grâces sensibles. Magnifique, c'est extraordinaire l'oraison. J'ai jamais connu un si grand bonheur. C'est très juste et c'est très bien. J'en ai envie de dire pourvu que ça dure. Et ça ne dure pas, ce qui est mieux. Et on sait d'avance que ça ne durera pas. Il y a des mystères de joie. Il y a des mystères de lutte. Il y a des mystères douloureux. Pour atteindre les mystères de gloire. Et la gloire, par moment, nous la vivons sur la terre. Par moment. C'est plus les mystères de joie, c'est les mystères de gloire. Et le rosaire, à ce point de vue-là, est magnifique pour montrer comment progressivement nous vivons de tous les mystères de Jésus. Et que tous les mystères de Jésus sont pour nous des moyens de vivre cette béatitude anticipée. Imparfaite, mais anticipée. Elle est vraie. Et elle nous est donnée. Et c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose d'infini. Il y a une profondeur infinie. Vous voyez, demandez à la Vierge Marie de comprendre cela. Et voyez bien, au plan théologique, le lien entre la fin et la béatitude. Mais quand je fais un acte de foi, un acte d'espérance, un acte de charité, je sais que j'atteins ma fin. Si cet acte de foi, d'espérance et de charité est sous la mouvance de l'Esprit Saint, est dans cet état bienheureux. Et c'est très grand ce passage de la finalité à la béatitude. Et ça, Thomas l'a compris. Mais vous verrez ça nulle part ailleurs aujourd'hui. Ça, c'est la grandeur de Thomas d'Aquin. C'est qu'il structure ces choses-là admirablement. Alors vous pouvez comprendre. Nous verrons ce soir, et nous terminerons par là, cette session, la seconde béatitude, la charité fraternelle. Et la troisième, ce sera pour une autre session. Ce sera le refuge. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie.